Bon, décortiquons tout ça. Quand on repense aux images un peu terrifiantes des inondations de l'été 2021 en Wallonie, avec des vallées entières qui ont été rayées de la carte en quelques heures, on comprend vite qu'un point de rupture a été atteint.
Ah ouais, c'est clair. C'est le choc total.
Et pour notre plongée en profondeur d'aujourd'hui, on a exploré une pile vraiment fascinante de documents. Des plans d'aménagement régionaux, des recherches universitaires, des modèles prospectifs pour 2050, tout ça.
Ouais, de la matière très dense.
La mission, en fait, c'est de comprendre comment la vallée de l'Ourthe essaie de survivre et de s'adapter. Parce que le paradoxe, il est dingue. On a un espace avec des gorges super étroites, mais la région demande 7000 nouveaux logements par an, juste parce que la taille des ménages diminue, quoi.
C'est énorme. Et le traumatisme de 2021, il a vraiment forcé les urbanistes à tout revoir. Parce que pendant des décennies, la méthode classique avec l'eau, c'était le curage.
Le fameux curage.
Ouais, voilà. On raclait le fond de la rivière au tractopelle, on creusait bien profond pour en faire un canal étriqué. L'idée, c'était de forcer l'eau à filer droit. Sauf que ça marche plus du tout.
En fait, c'est littéralement comme avoir un colocataire extrêmement colérique et imprévisible.
Un colocataire main.
Ouais. Pendant très longtemps, on a essayé de l'enfermer de force dans un tout petit placard. Forcément, à un moment, il finit par tout exploser.
C'est exactement ça.
Et aujourd'hui, l'approche change. On réorganise toute la maison, on pousse les meubles, tu vois, pour qu'il ait la place de s'énerver de temps en temps sans rien casser.
Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste avec le 19e siècle. À l'époque, il rêvait, mais carrément, de creuser un tunnel sous l'Ardenne pour un canal meuserin.
Attends, vraiment ? Un tunnel sous la montagne ?
Je te jure, c'était le projet fou. Aujourd'hui, l'ingénierie moderne fait l'inverse. Elle redonne de la place à la dynamique de la rivière. Et les budgets suivent. On parle de 13,4 millions d'euros juste pour moderniser le barrage de Nisramen.
Ah ouais, quand même !
Et d'ailleurs, l'université de Namur a créé un outil franchement génial pour expliquer ça. C'est un bac à sable en réalité augmentée.
Ok, comment ça marche ?
Tu modèles le sable à la main, tout simplement. Et il y a un projecteur au-dessus qui simule des pluies en temps réel. Ça montre exactement, en direct, où l'eau va déborder selon la forme du terrain.
Mais c'est brillant, ça ! Et du coup, ça nous amène directement à la terre ferme. Parce que laisser de la place à l'eau, ça exige de transformer complètement les paysages autour. Et ici, ça devient vraiment intéressant.
C'est le cœur du problème, oui.
Parce que les rapports européens parlent de ces projets LIFE qui rachètent en masse des anciennes monocultures d'épicéa sur les pentes abruptes. Mais j'ai un doute là. L'épicéa, c'est pas la carte postale typique de l'Ardenne, si ?
Si, totalement. Mais sur le plan hydrologique, c'est une vraie catastrophe.
Ah bon ?
Ouais, parce que ces conifères, ils ont des racines super superficielles. Donc quand il y a un gros orage, l'eau, elle glisse juste dessus et elle ravage tout ce qui est en contrebas. En plus, ces arbres se font décimer par les scolytes.
Ah oui, les petits insectes parasites qui rongent l'écorce.
Voilà. Du coup, les projets actuels remplacent tout ça par des forêts de feuillus indigènes. Les feuilles qui tombent, elles créent un humus super riche.
D'accord.
Et surtout, leurs racines profondes fracturent la roche. En fait, la montagne devient une espèce d'éponge géante qui retient l'eau.
Donc si je comprends bien, la biodiversité n'est plus juste là pour faire joli ou pour les balades du dimanche. Elle devient la vraie infrastructure de sécurité de la région, quoi.
Si l'on relie cela à la situation globale, c'est exactement la matrice économique primaire. Et comme la nature reprend ses droits, les infrastructures humaines, elles doivent se contorsionner.
C'est-à-dire ?
Par exemple, sur le Ravel, tu sais, la piste cyclable entre Comblain-la-Tour et Féron, ils ont dû construire une passerelle entière, sans aucun engin motorisé.
Sans moteur ?
À la main, à la seule force des bras. Tout ça juste pour protéger des zones classées Natura 2000. C'est des minuscules poches écologiques ultra protégées.
C'est fou. Mais j'avoue que je suis un peu sceptique sur un point des modèles prospectifs. D'un côté, on veut attirer des touristes du monde entier, notamment vers Durbuy. Et de l'autre, on freine volontairement la voiture.
Ouais, avec les aménagements routiers.
Voilà, on met en place ces fameuses voies centrales banalisées. Genre une seule voie au milieu, pour les voitures, et deux grandes bandes cyclables sur les côtés. Donc les conducteurs doivent rouler sur la piste cyclable pour se croiser. C'est pas un peu suicidaire économiquement pour une région qui vit du tourisme ?
Cela soulève une question importante, c'est vrai. Mais les documents prospectifs sont très clairs là-dessus. Le tourisme d'étalement, c'est mort.
Fini les grands parkings.
Ouais, bétonner des parkings géants, élargir les routes, ça détruit la nature, même que les touristes viennent voir. La stratégie économique maintenant, c'est l'intensité qualitative. On requalifie les friches existantes au lieu de bétonner ailleurs.
T'as un exemple précis en tête.
L'exemple de Barvaux est super frappant. Ils injectent 18 millions d'euros, pas du tout pour construire du LAF, mais pour démolir des bâtiments obsolètes et reconnecter physiquement la ville à sa rivière.
C'est fascinant, ça. La survie économique et climatique passe par la soustraction, pas par l'addition, quoi.
C'est exactement ça. C'est l'acceptation de nos limites physiques. L'espace, il n'est pas infini, donc faut construire mieux, pas plus grand.
Ce qui fait de la vallée de l'Ourthe un vrai laboratoire grandeur nature d'adaptation climatique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ?
Que le changement est en train de se produire là maintenant.
Exactement. Et ça laisse une idée finale assez vertigineuse en suspens. Si nos propres villes devaient raser leurs routes ou démolir d'anciens bâtiments, juste pour faire de la place à la nature et survivre au prochain choc climatique. Serions-nous collectivement prêts à sacrifier nos infrastructures et notre confort pour laisser ce colocataire colérique prendre la moitié de notre salon ?